Bonjour, bonjour. Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 secondes, une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale, probable ou improbable, horrible ou beautiful, les petites images qui bougent sur les grands écrans depuis maintenant un peu plus d'un siècle. Inutile de dire que nous nous situons du côté des beautiful, à tout point de vue, beautiful people, beautiful music, etc., etc., et que cette émission de 24 notes secondes de ce jour va le prouver, puisque nous allons rien moins qu'entendre les musiques de films oscarisés. Alors je précise, des Oscars de la meilleure musique de film, puisque bien évidemment, vous le savez tous et toutes, il existe une quantité infinie d'Oscars et que ce ne sont ni toujours les meilleures musiques de film qui sont récompensées, et parfois par contre, eh bien, elles sont oubliées, et c'est bien dommage. Sachant aussi que depuis quelques années, ça fait un petit moment déjà, il y a techniquement deux Oscars pour la meilleure musique, d'abord pour les chansons et ensuite pour les musiques, ce qui est quand même tout à fait différent et nous évite d'avoir chaque année la sempiternelle bande originale du film Walt Disney de l'année comme meilleur Oscar. Voilà qui est dit. Nous allons commencer, et là encore les fidèles de 24 notes secondes ne seront pas surpris, par écouter un extrait de la bande originale de l'Oscar de la meilleure musique de film en 1976 qui avait été accordé cette année-là, enfin, diront ces aficionados, et uniquement, hélas, diront aussi ces aficionados à Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith qui, pourtant, pendant sa très longue carrière, mérita de très nombreuses reprises l'Oscar de la meilleure musique de film, y compris pour des films qui eux-mêmes ne méritaient guère d'être oscarisés. Mais la vie est comme elle est, et les professionnels du cinéma peuvent se montrer parfois injustes, puisque Jerry n'obtint l'Oscar qu'une seule fois, en 1976, pour une partition tout à fait remarquable, il faut le reconnaître. Un film de Richard Donner qui avait été tourné dans la ligne du fabuleux succès de L'Exorciste de William Friedkin quelques années avant. Un film qui s'appelait en anglais The Omen et en français La Malédiction, et qui racontait une histoire à la fois terrifiante et en même temps peu crédible, celle du fils du diable qui est adopté clandestinement, bien sûr, par un diplomate américain qui finit très rapidement, enfin qui commence très rapidement par montrer ses dons maléfiques dès l'âge de 5 ans jusqu'à exterminer, je fais un peu de spoiling, ses parents à la fin du film avant de se voir adopter par rien moins que le président des États-Unis, puisque la fin de La Malédiction était ouverte et que le succès considérable du film, dont l'Oscar de la meilleure musique n'est qu'un des épisodes, et bien le succès considérable du film amena le tournage de deux suites, La Malédiction 2, vous l'avez compris, et La Malédiction 3 alias The Final Conflict, toutes les trois signées par Jerry Goldsmith, avec une préférence pour la troisième, pour ce qui m'intéresse, mais la troisième n'obtint pas l'Oscar, au contraire de cette partition. Alors, c'est certes une émission de musique de film, nous intéressons aux Oscars, disons quelques mots aussi de l'interprétation, puisqu'on retrouvait dans les rôles principaux de La Malédiction les solides, sinon indispensables, Gregory Peck et Lee Remick. Voilà. Alors je préviens les âmes sensibles, ça déménage un petit peu, il faut peut-être baisser le volume sonore. Vous pouvez vous accrocher à vos fauteuils ou à qui vous voulez. Un extrait de la bande originale de La Malédiction, une musique de Jerry Goldsmith à 24 notes secondes. Thank you. Et voilà, ça finit comme ça, le Ave Satani de la bande originale de La Malédiction, une musique de Jerry Goldsmith pour un film de Richard Donner tourné en 1976. Je vous préviens, si vous êtes intéressé, le reste de la bande originale est de la même eau, celle de Damien, le second opus, La Malédiction 2, était peut-être un petit peu moins horrifique, mais celle de La Malédiction 3 est encore supérieure. Alors on aime ou pas, mais on peut apprécier cette maîtrise des chœurs dans cette bande originale qui sans doute fut pour beaucoup dans le choix du jury des Oscars, puisque je vous le rappelle, cette émission de 24 notes secondes est consacrée à quelques films évidemment américains, puisque l'essentiel des Oscars de la meilleure musique de film sont américains. Quelques films américains ayant obtenu cet Oscar. Alors je voulais aussi signaler, pour être tout à fait complet, qu'on s'essaya il y a quelques années, pas très longtemps, mais je ne me souviens plus exactement quand, à un remake dont les producteurs hollywoodiens sont friands de La Malédiction, et ce fut, comment dire, une catastrophe, j'allais oublier, sans doute parce que tout y était mauvais, mais sans doute aussi parce que l'époque où l'on pouvait encore être effrayé par ces grandes menaces sataniques est peut-être un peu dépassée, et qui ne pourrait s'en féliciter. Alors, c'est à la fois un hasard et ce n'est pas un hasard, mais nous allons passer avec la bande originale qui suit à quelque chose de tout à fait, mais alors là, tout à fait différent pour un film qui obtint en 1982 l'Oscar de la meilleure musique de film, peut-être d'autres, mais j'avoue que je ne m'en souviens plus. Alors, le titulaire de cet Oscar, contrairement à Jerry Goldsmith, lui était un vieux routier des Oscars, puisqu'il l'obtint à plusieurs reprises. Il s'agit de John Williams, mais oui, le célébrissime compositeur hollywoodien, notamment celui de La Guerre des Étoiles, mais aussi, et c'est bien pour cela que nous en parlons, celui de la quasi-intégralité des film de Steven Spielberg. Comment ça, la quasi-intégralité? Eh bien oui, dans Duel, il n'y avait pas de musique que je me souvienne, mais Duel était pour la télévision, nous n'avons peut-être pas argué sur l'écran de 24 notes secondes. En tout cas, en 1982, ce duo-là qui résiste au passage des temps, Steven Spielberg et John Williams, signa un film qui fut un méga succès dans le genre, comment dire, crémeux, E.T. Mais oui, 1982, c'est l'âge de E.T. Alors évidemment, pour ceux qui l'ont vu à sa sortie, je ne nommerai personne, ça fiche un coup. Pour les autres, ma foi, je crains que ça ait assez mal vieilli. D'ailleurs, il y a quelques années, Steven Spielberg s'était essayé à une ressortie du film masterisé ou que sais-je encore, qui n'avait pas connu un grand succès. Peut-être un peu comme les années 70 furent la mode des films sataniques et que cette mode-là est passée. Peut-être les années 80 fut la mode des films niais et cette époque-là est peut-être aussi un peu passée. Je suis dur avec ce pauvre E.T. bien sûr, qui fit larmoyer des générations d'enfants dont je ne suis pas. Avant de retourner dans sa maison, ma foi, on était bien soulagés qu'il y parvienne. La bande originale était relativement banal pour un film de Steven Spielberg et surtout pour une musique de John Williams, mais il se trouve que c'est cette année-là qu'elle obtint l'Oscar de la meilleure musique de film. Alors on va s'en écouter un petit extrait, vous pouvez sortir vos mouchoirs si vous voulez, reprendre un peu de sucre candy, c'est mignon tout plein et ça se passe sur Divergence FM. La patte allègre de John Williams pour un extrait bondissant, c'est le moins qu'on puisse dire, de la bande originale de E.T. l'extraterrestre, un film de Steven Spielberg tourné en 1982. Alors je suis sûr, même si je ne m'en souviens pas absolument, que derrière cette musique, ou plutôt devant, eh bien, il y avait un vélo qui volait dans le ciel. Un vélo qui volait dans le ciel, c'est un peu dur à dire. Bref, comme Steven Spielberg l'indiquait à l'époque, E.T. c'est une fable et il faut la prendre comme telle, avec ses codes, avec ses naïvetés, mais elles étaient assumées. Ma foi, le résultat était relativement sympathique. En tout cas, ce fut un triomphe absolu. Et puis, pour les plus pervers d'entre nous, ce fut aussi l'occasion de se rappeler que Drew Barrymore a été aussi une toute petite fille. Ce qui, quand même, est un peu difficile à croire maintenant. Mais bref, sic transit gloria mundi, comme disait mon bien-aimé papa. Nous allons continuer donc dans 24 notes secondes à égrener quelques Oscars de la meilleure musique de film. Alors, c'est un peu un hasard entrechoquant, mais une fois de plus, nous allons passer à quelque chose de tout à fait différent, puisque en 1990, le film qui obtient l'Oscar de la meilleure musique obtint aussi celui, excusez du peu, du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur montage, de la meilleure photographie, du meilleur son et du meilleur scénario adapté. Bref, ce fut un triomphe pour un acteur réalisateur qui avait eu quand même beaucoup de courage, il faut le dire. En l'espèce Kevin Costner, puisque c'est bien de lui qu'il s'agit, qui avait choisi de tourner essentiellement en langue indienne un film élégiaque, une sorte de néo-western, comme on en avait beaucoup vu dans les années 70 et 80, années contestataires s'il en fut, mais au début de 1990, le pari était des plus risqués, et pourtant, il faut s'en féliciter, Danse avec les loups, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, fut un triomphe commercial. Souvent, les Oscars sanctionnent des triomphes commerciaux, mais pas toujours quand même, il faut le reconnaître. Et en l'espèce, eh bien, ma foi, la coïncidence était heureuse, puisque Danse avec les loups est quand même plutôt un bon film, il faut le reconnaître, avec effectivement une photographie absolument magnifique, le tout tourné dans les paysages du Dakota du Sud, que j'ai eu l'occasion de parcourir aussi, si vous voulez le savoir, avec une grande rigueur dans la restitution de la vie des Indiens. Et avec évidemment un retournement politiquement complet de situation entre les westerns jusqu'aux années 60 où les blancs avaient le beau rôle et où les indiens prenaient des scalps en hurlant basiquement. Ici c'est tout à fait autre chose. Kevin Costner et son scénariste Michael Blake qui était aussi l'auteur du roman originel avaient privilégié un souci de scrupule, d'authenticité et à la limite, un peu paradoxalement, c'était plutôt la vision des Américains blancs qui était caricaturale, alors que celle du peuple indien, des peuples indiens en l'espèce, était noble et bienvenue. Bref, de ces grands films d'aventure comme on aimerait en voir plus souvent et qui réussissaient à maintenir l'attention pendant plus de 3 heures, puisque c'était effectivement une épopée fleuve. Alors, pour ce genre de film, eh bien souvent, on pensait à un compositeur qui se fit une spécialité à la fois des films de James Bond et aussi des films romantiques. Peut-être l'avez-vous déjà reconnu. Mais oui, c'est bien John Barry qui s'attacha à exalter l'épopée que Kevin Costner, qui s'était octroyé aussi le rôle principal, celui de John Dunbar, l'épopée qui était une sorte d'hommage aussi à un peuple et à une civilisation disparue. Ma foi, il y réussit bien, puisque vous l'avez compris, lui aussi obtint l'Oscar de la meilleure musique de film cette année-là, 1991, puisque le film sortit en 1990, mais il s'agit des Oscars 1991. Alors on va prendre une grande bouffée d'air frais avec quelques bisons, avec des Tipeee et tout ce que vous voulez pour écouter un large extrait de cette bande originale. Un film de Kevin Costner, une musique de John Barry, ça s'appelait Dances with Wolves in English. Allez, je le refais, Danse avec les loups en anglais. Et vous êtes bien sur 24 notes secondes. Thank you. un très large extrait de la bande originale de Danse avec les loups, un film de Kevin Costner, avec Kevin Costner dans le rôle principal, tourné en 1990, un film qui obtint cette année-là l'Oscar du meilleur film et l'Oscar du meilleur réalisateur, pendant qu'on y est, et aussi puisque c'est, ou c'était presque le sujet de 24 notes secondes de ce jour, qui obtint aussi l'Oscar de la meilleure musique de film, alors qui est un signe de reconnaissance absolue dans la profession, dans toutes, j'imagine, les branches d'activité, mais bien évidemment, pour un compositeur de musique de film, c'est le Nirvana. Alors, vous allez tous faire une petite prière avec moi, que vous soyez croyant ou pas, pour espérer que notre national Alexandre Desplat, qui est aussi connu aux États-Unis où il a fait notamment Excusez du peu, même si on peut apprécier ou pas les genres, la musique d'au moins un épisode d'Harry Potter et la musique d'au moins un épisode de Twilight, mais qui aussi multiplie les collaborations avec les cinéastes américains, bref, qui est notre nouveau Georges Delerue. Espérons qu'un jour ou l'autre, Alexandre Desplat réussisse à avoir l'Oscar de la meilleure musique de film. Ce serait une consécration suprême, c'est mieux, amplement mérité. C'était pour ça que je n'étais pas arrivé. Alors nous allons conclure avec quelque chose de totalement différent encore. Évidemment, les films qui obtiennent l'Oscar, c'est mieux. Ah, l'Oscar, ça serait un peu pas terrible. Qui obtiennent l'Oscar de la meilleure musique de film sont généralement des films mainstream. Alors, celui-là, un peu comme Danse avec les loups, pas grand monde n'aurait parié sur son succès. Mais oui, ça paraît étonnant d'y penser maintenant, mais pas grand monde n'aurait parié sur son succès avant, puisque on disait que le réalisateur James Cameron avait poussé le souci du perfectionnisme jusqu'à engloutir des sommes si fabuleuses qu'elles ne pouvaient être rentabilisées par la sortie du film, et puis qu'il avait eu des acteurs assez peu connus, en tout cas moins qu'ils ne le sont devenus, en l'espèce Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Bref, beaucoup s'attendaient à un naufrage commercial. Je pense que vous l'avez compris, il n'en fut rien, c'est de Titanic qu'il s'agit. Et bien évidemment, dès sa sortie, ce fut un succès absolu que seul peut-être a dépassé depuis Avatar, du même James Cameron. À vrai dire, assez peu de films ont connu un succès aussi considérable et aussi universel que Titanic. Alors on aime ou pas James Horner, qui est lui aussi un habitué des platines de 24 notes secondes, mais en tout cas c'est lui qui a composé la musique de Titanic, et évidemment cette année-là le film rafla l'Oscar de la meilleure musique. Alors on va s'en écouter un très très large extrait. Vous pouvez être ou pas les rois du monde, vous pouvez ou pas vous accrocher au canot de sauvetage, par contre vous ne pouvez pas ne pas aimer Kate Winslet, si sinon ce n'est pas la peine de revenir à la prochaine émission de 24 notes secondes. Alors Kate, on t'aime, et pour toi, mais pour toi seulement, on écoute un extrait de la bande originale du film dans lequel tu apparaissais nu, etc., etc., sur Divergence FM. Ooh. Oh Jack, 24 notes secondes, c'est fini. Eh oui Rose, je sais. Au revoir, bye bye. See you Jack, see you Rose.